Chapitre 17. Notre cité, corrompue jusqu'à la moelle, s'effondrera comme les autres cités avant elle, comme les anciennes nations orgueilleuses qui défièrent les cieux et en furent très durement punies. Harold Schulster, pasteur de l'église du septième sceau. Cité unifiée de Nilopa. Croyez-moi, valait mieux pas avoir affaire au grub. Je faisais partie de la minorité montmartroise. Et je vous garantis que, quand on tombait dans leurs sales pattes, on n'avait pas beaucoup de chance d'en sortir indemne. Mais t'arrivais de laisser une ou deux dents dans leur foutu bureau. Heureusement qu'il y a les implants génétiques. Je vivais de combines, de trafic, et j'avais beau prendre toutes les précautions, ils avaient vite fait de nous repérer et de nous serrer avec leur saloperie de biopuce. Alors j'en ai eu ma claque. J'ai tout plaqué, je me suis rangé. Ces salopards de grub ne m'ont pas lâché pour autant. Ils m'ont obligé à devenir un dick. Un dick, moi ! Quand les ombres ont lancé leurs premières attaques, la population s'est mise à crever de trouille, mais de mon côté, j'étais plutôt content. J'avais enfin la paix. Dave souleva les stores pour jeter un coup d'œil dans la rue. Il dit quoi, le Gravik ? Faut se manier, mec. Le jour se lève et les autres vont pas tarder à rappliquer. Théo fixait l'écran de l'appareil à son crever les yeux. Il cherche, répondit-il. La puce a été effacée plusieurs fois. Il trouvera que dalle, alors. Si, comme j'en suis convaincu, elle a été gravée par cet appareil, il devrait pouvoir en reconstituer l'historique, effacé ou pas. La lumière du jour s'infiltrait par les stores et dessinait des figures géométriques complexes sur le sol. Théo n'avait pu réfréner un sentiment mêlé d'envie et de dépit lorsqu'il était entré dans la pièce. La municipalité de New York était nettement plus généreuse pour ses grubs que celle de Paris pour ses fouineurs. De nombreuses machines dernière génération trônaient sur les tables et crachaient en silence et en permanence des données aussitôt classées par ordre de priorité. Lignes sobres, transparence, miniaturisation, calculateur quantique, contrôle du geste et de la voix, le nec plus ultra en matière de technologie. Le central de Paris, en comparaison, ressemblait à une exposition d'antiquité d'avant la Grande Guerre. « Tu cherches quoi au juste ?» demanda Dave de plus en plus nerveux. La preuve qu'il y a eu des contacts entre les grubs de New York et les mouvements apocalyptiques ou satanistes de Paris. Ça changera quoi? Faut toujours savoir à qui profite le crime, c'est la règle de base du métier. Quand ma hiérarchie aura tous les éléments en main, elle pourra s'organiser, si elle en a encore le temps. Les lignes se succédaient sur l'écran du Gravik, épluchant comme un oignon les différentes couches de la puce. Vas-y, mon beau, crache-nous tout ce que tu as dans le bide. Murmura Théo. Dave tritura la crosse de son taz. Il ne nous reste même pas 20 minutes. Déjà que je vais avoir du mal à expliquer comment le vigile de ce niveau se retrouve ligoté et bâillonné dans les chiottes. T'as qu'à le neutraliser définitivement. Tu veux dire le flinguer? T'es vraiment fêlé, mec. C'est la guerre. À la guerre, tous les coups sont permis. Dave exprima sa réprobation d'un claquement de langue. Tu déconnes, mec. C'est un collègue. Il y a déjà eu 50 000 morts. Et il y en aura d'autres, beaucoup d'autres, si on parvient pas à arrêter les dingues qui sont à l'origine de cette boucherie. Qu'est-ce que tu préfères, Dave ?
Le Gravik grésilla, puis émit une succession de notes prolongées. Le collègue dira rien de toute façon. Je l'ai eu par derrière, je crois pas qu'il ait eu le temps de nous voir. Les signes qui s'affichaient sur l'écran attirèrent l'attention de Théo.
C'est toi qui décides, Dave. Ah, ça devient intéressant. Encore un effort, mon tout beau.
Les matrices contrôlaient les réseaux de communication, le système bancaire, les transports et la sécurité de la cité unifiée. Comme tout système centralisé, elles étaient extrêmement vulnérables, même si leurs concepteurs les prétendaient inviolables. Les progrès considérables générés par l'informatique quantique se payaient d'inconvénients majeurs qui mettaient parfois les techniciens dans l'embarras. Les circuits secondaires, prévus au départ pour pallier les dysfonctionnements du système central, étaient rapidement devenus inopérants, et réservé à quelques privilégiés qui désiraient communiquer entre eux à l'abri des oreilles indiscrètes. Mais personne n'avait jamais posé cette question, essentielle pourtant. Qui programmait et contrôlait les matrices? L'huissier introduisit le responsable des services techniques de la cité de Paris dans le bureau d'Alaric Brognier.
« A-t-on réussi à rétablir les réseaux de communication ?» demanda le maire sans préambule.
« Pas encore, monsieur. » répondit le responsable, un homme d'une 50aine d'années, dont les cheveux blonds et les yeux d'un bleu tirant sur le mauve résultaient probablement d'une correction génétique.
Il portait l'uniforme bleu marine des fonctionnaires de la mairie. Les doubles liserés pourpres sur le col et l'extrémité des manches indiquaient son rang.
« Qu'est-ce que vous attendez, bon Dieu ? Nous ne pouvons pas rester coupés des autres villes !»«
Il s'agit d'un bug informatique d'un type inconnu, monsieur. Toutes mes équipes sont sur le pont. »«
Ne me dites pas que vous êtes tenu en échec par un caprice de ces satanées machines !»
vitupéra Alaric Brognier.
« Je vais finir par croire que je suis entouré d'incapables !»
Le responsable ressemblait à un enfant penaud pris en faute.
« Je vous assure que nous faisons tout pour... »
L'adjoint Jules Richebourg s'engouffra à son tour dans le bureau par l'une des portes latérales.
« Monsieur ?»«
Quoi encore ?»
aboya le maire.
« Les ombres. »« Eh bien quoi, les ombres ?»
Jules Richebourg reprit son souffle. « Une nouvelle attaque, dans l'ouest, les quartiers de Neuilly et de la Défense. »«
Un bilan ?»«
On parle de plus de 5000 morts. » Le visage d'Alaric Brognier se décomposa.
« 5000 en une seule attaque ?»«
C'est ce qu'on m'a dit. »
« Comment avez-vous été prévenu? Tous les réseaux sont coupés, y compris ceux des médias. Nous sommes complètement dans le noir. »
« Certains circuits privés fonctionnent encore. Je viens de recevoir une communication d'un ami de la Défense. Selon lui, les crimes ont été commis en moins d'une demi-heure. » Le maire se leva et contourna le responsable des services techniques pour se rapprocher de l'adjoint.
« 5000 morts en moins de 30 minutes. Vous êtes sûr de votre informateur ?»«
Je n'ai aucune raison de mettre sa parole en doute. » répondit Jules Richebourg. J'ai envoyé un observateur sur place, j'attends son rapport. Alaric Brognier se tourna vers le responsable des services techniques.
On ne peut pas joindre les autres mairies avec les circuits privés.
Non, monsieur, ce sont d'anciens réseaux intranet qui permettent seulement de communiquer dans un périmètre restreint.
Les transports ne sont pas affectés ?
Ils fonctionnent normalement.
Ils sont pourtant eux aussi gérés par le central, non ?
Le responsable des services techniques se massa la tempe de la pulpe de l'index.
Le bug n'affecte que les communications.
Le maire garda le silence, immergé dans ses pensées.
Jules Richebourg ne l'avait jamais vu à ce point décontenancé.
Nous sommes maintenant aveugles et sourds, reprit Alaric Brognier. Totalement vulnérables. Il faut mettre les forces de l'ordre en état d'alerte.
La police l'est déjà, monsieur, objecta Jules Richebourg.
Et l'armée?
L'armée n'est actuellement pas sous notre commandement, c'est la...
Je sais que c'est la mairie de Londres qui est en charge de l'armée jusqu'à la prochaine assemblée,
coupa le maire.
Et je m'en fous! Convoquez immédiatement les représentants de l'état-major!
Mais... Alaric Brognier congédia son adjoint d'un geste impatient.
Vous ne comprenez donc pas que chaque seconde compte?
New York? Ava s'arrêta au milieu de l'allée et les sourcils froncés fixa Ganesh.
Putain, Ganesh, c'est grand! Et on n'a aucun indice. Autant chercher une fourmi dans le parc Monceau. Et puis, tu peux pas te tirer sans prévenir ta hiérarchie.
Moi, en tout cas, je te suis pas. Je tiens pas à foutre ma carrière en l'air avant même de l'avoir commencé.
Pas très aventureuse, la stagiaire Ava.
Fais chier, Ganesh. C'est Théo lui-même qui m'a donné ce conseil. Je voulais partir avec lui à New York. Il m'a jeté en disant que mes déplacements seraient tracés par ma biopuce de citadine. Je suis un boulet pour lui.
La nuit donnait aux arbres du parc désert l'allure de fantôme frissonnant.
On est tous des boulets pour Théo. Il ne m'a pas très bien accueilli au début. Quoi qu'il en soit, si tu as envie de voir New York, c'est le moment ou jamais.
J'ai pas les moyens de me payer le voyage.
Mon dernier salaire a été viré, je me ferai un plaisir de t'offrir le billet.
Eh, va pas croire que, rassure-toi, je te drague pas. T'es pas mon genre.
Merci.
De rien.
Demande d'ouverture du domaine protégé. Demande d'ouverture du domaine protégé. Code.
Excuse-moi.
Ganesh s'éloigna. Ses chaussures crissèrent sur les gravillons de l'allée.
« Code !»
Il s'estima assez loin pour pouvoir parler sans être entendu. « WA196BX-602KY. Domaine ouvert. Espace de dialogue ouvert. « Bonjour Ganesh. » La même voix que l'autre fois, avec un léger accent new-yorkais.
« Cette session peut s'interrompre à tout moment. » Les réseaux de communication sont coupés. Nous utilisons un réseau parasite, mais les Pac-Man sont de plus en plus efficaces.
Les Pac-Man?
Des créatures voraces des antiques jeux vidéo. C'est le surnom des programmes chargés de démanteler et d'avaler les cryptages.
Un brouillage escamotait par instant la voix du correspondant de Ganesh.
Ne cherchez pas à retrouver Théo, Ganesh.
C'est un ami, pas question de le laisser tomber.
N'allez pas à...
Quoi? Quoi?
New York, Théo. Saldra, bureau des Grubbs. Madison, rien pour lui. Besoin de vous ici.
Je vous entends presque plus.
Si, New York. Les Grubbs.
Quoi les Grubbs? Putain, je comprends plus rien.
Girl du Loup. Fin programmée. Qu'une étape.
Le brouillage insupportable rendit la voix inaudible. Puis le silence se fit à nouveau en Ganesh. Fin de la session. Domaine fermé. Fin de la session. Domaine fermé. Perplexe, il rejoignit Ava au milieu de l'allée.
Ça va? Dit-elle. Rien de grave?
Un appel privé, j'ai eu un problème avec le cryptage. Il vit dans son regard qu'elle ne le croyait pas. Elle sortit de sa poche une petite boîte, l'ouvrit et saisit une pilule blanche qu'elle avala avec une grimace.
Stimulateur nano-neuro.
Qu'est-ce qu'on fait? Demanda-t-elle au bout de quelques secondes. On retourne au central?
Fais ce que tu veux. Moi, je file à New York.
Je comprends pas, monsieur. Les communications intercitadines sont interrompues et j'ai gardé un contact intact avec le fouineur Ganesh Parvati. Je vous ai déjà dit qu'on lui avait implanté un programme spécial. Spécial ou pas, un programme est toujours relié aux matrices de la cité unifiée.
Les matrices, on leur fait dire et faire ce qu'on veut.
Je ne comprends pas ce que les matrices ne sont que des machines. Elles ne prennent pas d'initiative. Il suffit de savoir les manipuler. Je les croyais inviolables. L'homme le plus fort de la Terre est invincible jusqu'à ce qu'il tombe sur quelqu'un de plus fort que lui.
Ça veut dire quoi?
Peu importe, votre boulot c'est de suivre le fouineur Ganesh Parvati.
Il est actuellement dans le tube souterrain entre Londres et New York, parti à la recherche de son ami Théodore.
Quel comportement aberrant. J'ai de plus en plus de mal à comprendre les êtres humains. Vous appartenez pourtant à l'espèce humaine.
Je vous laisse une réunion. Les communications seront rétablies dans environ 5 heures.
Comment pouvez-vous en être aussi sûr? Je veux que vous me teniez informé de chacun des faits et gestes du fouineur Ganesh Parvati. Et surtout, surtout, n'entrez pas en contact avec lui, à aucun prix. Compris?
Ai-je le choix?
J'ai bien peur que non.
Le Gravik continuait d'aligner les mots et les dates sur l'écran. Dave, de plus en plus nerveux, surveillait sans cesse la rue, à travers les lamelles des stores.
Vraiment passionnant, murmura Théo. Quoi donc, mec?
Les échanges entre tes copains les Grubbs et les cinglés de la main noire. Le Gravik les a tous reconstitués.
Ça dit quoi?
Théo lança un coup d'œil au vigile.
En gros, il leur propose un paquet de fric et leur assistance technique pour organiser une série de meurtres à Paris.
Pourquoi Paris?
Facile à comprendre, Dave. Préparer l'opinion parisienne à l'avènement d'un gouvernement autoritaire et centralisé. On crée la panique, on profite de la terreur de la population pour imposer un nouveau régime qui n'a plus rien de démocratique.
Dave abandonna un petit moment sa surveillance pour fixer Théo d'un air réprobateur.
Je vois pas ce que la CU a de démocratique.
Le partage des pouvoirs entre les cités, les élections, les assemblées, c'est pas grand-chose peut-être, mais ce sont les seuls vestiges de démocratie qu'il nous reste. C'est encore trop pour certains apparemment.
Bon, faut se tirer, mec. T'as eu ce que tu voulais et les Grubbs vont débouler.
Tu me laisses partir, Dave?
Une esquisse de sourire s'afficha sur les lèvres du vigile.
Je t'ai jamais vu, mec. Je sais même pas que tu existes. Bonne chance.
Théo commanda l'expulsion de la micropuce d'une pression continue de l'index sur la touche lumineuse. Il la récupéra dans le creux de sa main et fonça vers la sortie de la salle.
Salut, Dave. Bonne chance à toi.
Il ouvrit la porte, s'assura machinalement du regard que la voie était libre, et se dirigea vers l'extrémité du couloir.
Ne bouge plus, Théodore Bernier!
La voix avait claqué derrière lui, accent new-yorkais.
Au moindre mouvement, je te neutralise!
Des bruits de pas enflèrent dans le couloir.
Bordel de Dieu! Ils étaient en train de nous écouter!
La voix lointaine et affolée de Dave.
Tire-toi, mec! Tire!
Le grésillement caractéristique d'un taz retentit, suivi d'un gémissement étouffé et du choc sourd de l'effondrement d'un corps. Théo voulut se retourner, mais la voix l'en empêcha.
« Si vous bougez, la prochaine décharge est pour vous, Théodore Bernier. Je vous préviens, elle sera mortelle. »«
D'accord, d'accord. Je bouge pas d'un cheveu.
soupira Théo.
« Mais vous êtes où, bon Dieu ?»«
Tout près de vous. Vous êtes bien naïf de croire que la surveillance de ces bureaux était confiée au seul vigile. Nous n'avons rien perdu de vos évolutions, ni de vos conversations.
Vous allez faire quoi de moi, m'éliminer ?»«
Nous avons d'abord quelques questions à vous poser. »
« Qu'est-ce qui vous fait croire que je répondrai ?»
La voix marqua un temps de silence. « Les statistiques. Nos techniques d'interrogatoire sont au point. Jamais nos questions ne sont restées sans réponse. »«
Moi aussi j'ai une question. C'est vous les ombres ?»
Théo ne reçut pour réponse qu'un éclat de rire. L'osphère engendra la nuit qui cache la laideur du monde en son sein obscur. Puis il expédia ses légions ténébreuses sur la terre, soumises à la lumière et à la chaleur infernale du soleil, le tyran. Culte de l'osphère, agglomération de Tchon. Pays hors site.
J'ai longtemps vécu à Tchon, et je ne conseille à personne d'aller s'y installer. Tchon était un enfer sur terre. À ceux qui affirmaient que tout le pays hors site était devenu un enfer, je répondrais que certains endroits étaient pires que d'autres. Les gueules noires imposaient leur terreur de la tombée de la nuit jusqu'à l'aube. Les adeptes de l'osphère offraient des sommes de plus en plus importantes aux aubergistes, aux chefs de clan, aux parents eux-mêmes, pour acheter les victimes de leur culte barbare. Une pratique ignominieuse se développait dans certaines familles, qui consistait à faire un grand nombre d'enfants afin d'en vendre un ou plusieurs aux émissaires losphériens. Un vrai trafic. Un trafic dans lequel j'ai trempé. J'ai même pris plusieurs femmes qui m'ont chacune donné 4 ou 5 enfants. Sur la vingtaine que nous avons engendrés, 6 ont été remis aux gueules noires pour quelques poignées de tchon. 6, qui ont été torturés et crucifiés. 6, dont les cris d'agonie ont retenti jusqu'au petit matin. Le plus vieux avait 10 ans, le plus jeune à peine 2. Leurs visages ont hanté mes pensées, mes rêves, pendant des années, et continuent de me harceler. Les remords sont devenus si étouffants, si douloureux, que je me suis enfui comme un lâche un jour d'hiver pluvieux, quittant ce théâtre de malheur, abandonnant les femmes dont je devais assurer la protection et la subsistance, les condamnant, elles et mes filles, à être des proies faciles pour les prédateurs de tout genre, les gueules noires, les brutes des clans, les marchands de viande humaine, les cinglés de tout poil, qui faisaient de la souffrance et de la cruauté leur seule raison de vivre. Je me suis transformé en spectre, en l'une de ces ombres qui errent, comme des âmes damnées en espérant qu'un jour, quelqu'un leur plongera une lame dans le cœur.
Les hommes en noir, ils viennent pour vous prendre!
La voix vibrante de Yosp réveilla Delune et Naya. Suivant les recommandations de Kolb, ils avaient gardé la fenêtre de la chambre fermée malgré l'âpre odeur de poussière et de décomposition. Naya eut besoin de temps pour distinguer la silhouette agitée de Yosp dans l'obscurité.
« Les hommes en noir, les heures me parlent, ils viennent, ils veulent vous prendre !»
répéta Yosp.
« Calme-toi !» murmura Naya. « On est à l'abri ici !»
Les hommes en noir parlent à la femme. La vieille femme leur ouvre la porte et leur montre le chemin de notre chambre.
Il faut immédiatement partir, intervint Delune. Il s'était éjecté de sa paillasse et avait commencé à se rhabiller.
T'en as de bonne, toi,
objecta Naya, assise sur sa propre paillasse.
Où tu veux qu'on aille?
Je sais simplement qu'on ne doit pas rester là. Dans combien de temps ils seront là, Yosp? Le petit homme se tenait déjà près de la porte, tremblant de peur.
Les heures ne me disent pas.
Des grincements et des craquements répétés brisèrent le silence nocturne.
« Ils sont dans l'escalier !»
souffla Delune.
« Passons par la fenêtre !»« T'es dingue !»
protesta Naya.
« On est au 3e étage, elle est au moins à 12 mètres de hauteur. On n'a pas le choix !»
Delune se rendit en 2 bonds près de la fenêtre et ouvrit les lourds volets de bois. Elle donnait sur une petite place derrière la maison. La clarté diffuse du croissant de lune et des étoiles lui permit de discerner un arbre dont les branches les plus hautes se balançaient à moins de 2 mètres de l'ouverture.
« On va se casser le cou !»
chuchota Naya derrière lui.
« Peut-être pas si on réussit à attraper les branches !»
D'autres grincements et craquements retentirent, plus proches.
« Et Yosp !»
De Lune se retourna et aperçut le petit homme aux côtés de Naya, les yeux agrandis par la terreur.
« Je le prends avec moi. Mais comment tu... »
Yosp n'attendit pas que Naya ait terminé sa phrase pour se rapprocher de Delune.
« Tu es prêt ?»
Yosp acquiesça d'un hochement de tête. Delune grimpa sur le rebord de la fenêtre et tendit la main pour aider le petit homme à le rejoindre. Une fois qu'ils eurent tous les deux pris position sur l'étroite corniche de pierre, Delune passa le bras autour de la taille de Yosp, le plaqua contre lui, fléchit les jambes et les détendit comme des ressorts. Son saut le propulsa dans les branches proches. Des feuilles et des tiges flexibles lui cinglèrent le visage. Il lança son bras libre à la recherche d'une prise. Plusieurs ramilles se brisèrent sous son poids. Serrant Yosp contre lui, il continua de tomber à travers la frondaison. Sa main parvint enfin à accrocher une branche qui plia, sans se rompre. Il s'y agrippa de toutes ses forces, eut l'impression que son bras se disloquait, mais ne lâcha pas. Des craquements lui apprirent que Naya avait sauté à son tour dans la frondaison.
« Tu peux te débrouiller pour descendre ?» demanda-t-il à Yosp. « Je peux !»
Yosp saisit une branche voisine et, avec une adresse surprenante, commença à dévaler l'arbre. Il n'eut ensuite qu'à se laisser tomber sur une hauteur de 2 mètres pour gagner le sol. Naya les rejoignit quelques secondes plus tard, le front barré d'une large égratignure. Un fracas de porte retentit au-dessus d'eux, suivi d'éclats de voix. Ils s'engouffrèrent dans une ruelle qui donnait quelques centaines de mètres plus loin, sur un grand bâtiment de tôle fermé par des grilles. Des bruits de cavalcade leur signalèrent que les hommes en noir s'étaient lancés à leur poursuite.
« Il faut qu'on dégote une cachette, vite !»
lâcha Naya entre 2 expirations sifflantes. Ce maudit asthme ne choisissait pas le bon moment pour se rappeler à son souvenir. À chaque inspiration, des lames chauffées à blanc lui transperçaient les poumons. Ils contournèrent la bâtisse et enfilèrent les ruelles au hasard, sans croiser la moindre silhouette, ni entrevoir la moindre lumière. Seuls résonnaient les claquements de pas dans le lointain. De gros rats dérangés dans leur besogne hérissèrent le poil et montrèrent les dents. Une muraille se dressa tout à coup devant eux.
« Le rempart !» souffla Delune.
Son faîte culminait à plus de 20 mètres de hauteur. Comme il ne présentait aucun escalier, aucune ouverture, aucune prise, ils durent le longer sur 100 mètres, contraints parfois de se faufiler dans les minuscules intervalles entre les constructions et la muraille.
« Là, une porte !»
s'écria Delune en désignant le linteau monumental au-dessus des toits.
« Pas trop tôt !» maugréa Naya. « J'ai hâte de foutre le camp de cet endroit de malheur !»
Ils s'en rapprochèrent, mais au moment où ils débouchaient sur l'espace dégagé devant la porte, une foule surgit d'une ruelle, les uns brandissant des torches, les autres poussant devant eux 2 adolescents terrorisés.
« Les hommes en noir !»
gémit Yosp. Delune et Naya, tirant leurs petits compagnons, se réfugièrent dans un recoin d'obscurité entre 2 habitations. La foule se répartit sur l'espace libre face à la porte. 2 croix grossières de bois reposaient devant des cavités étroites creusées dans le sol.
« Qu'est-ce que tu vois ?»
chuchota Naya. Delune avait glissé la tête de l'autre côté de l'arête de la construction pour avoir une vue d'ensemble de la place. Hormis les 2 adolescents attachés par le cou et traînés devant les croix, les membres de l'assistance, hommes et femmes, étaient vêtus de noir de la tête aux pieds, leurs visages et leurs mains enduits d'une substance également noire, charbon ou broue de noix. Un homme se détacha de la foule et grimpa sur un escabeau que 2 femmes avaient posé devant lui.
« L'osphère sera satisfait cette nuit !» déclara l'homme d'une voix forte. « Nous lui offrons le sang du sacrifice !» Il nous regarde comme ses fils bien-aimés. Il déploie pour nous ses ténèbres. Il nous enveloppe des replis de son noir manteau. Puissant l'osphère, que ton règne arrive !»«
Que ton règne arrive !» répéta la foule en chœur.
« Que ta volonté soit faite !»« Que viennent les temps obscurs !»« Que s'efface à jamais la lumière du jour qui dévoile l'horreur de l'homme et de la création !»
« Que ta volonté soit faite !» cria la foule.
L'assistance entonna un chant grave dans une langue que Delune ne comprenait pas. L'adolescente sanglotait tandis que le garçon fixait le prêtre et ses fidèles d'un air ébahi.
« Moi, Balbu, ton fidèle serviteur, j'offre au grand Losphère ces 2 sacrifices au nom de la communauté de Tchon !»
reprit l'officiant à la fin du chant. Des tambours se mirent à battre. Et les membres de l'assistance à se trémousser. Emplis de tristesse et de colère,
De Lune se laissa choir contre la cloison de tôle lorsque les hommes s'approchèrent des deux adolescents et commencèrent à retirer leurs vêtements. Naya, Yosp et lui demeurèrent immobiles, assis à même le sol, tout le temps que les adeptes de l'osphère crucifiaient leurs victimes. Les cris d'agonie des deux suppliciés dominèrent bientôt les vociférations de l'assistance. Le temps se suspendit. Lorsqu'enfin le silence redescendit sur Chon, les premières lueurs de l'aube se glissaient entre les nuages et paraient d'or pâle les toits et les façades de Chon. De Lune risqua de nouveau un regard en direction de la porte. Le spectacle qu'il découvrit sur l'esplanade l'horrifia. Des rats noirs grouillaient aux pieds des deux croix dressées sous le rempart. Les têtes des deux adolescents crucifiés et couverts de sang reposaient sur leur poitrine.
« Qu'est-ce qu'on fait ?»
murmura Naya. « D'après Kolb, on ne risque rien le jour. Il faut qu'on essaie de le retrouver. Il était peut-être de mèche avec la logeuse pour nous livrer à ces monstres. Le mieux est d'aller le lui demander. Tu crois pas qu'on devrait plutôt se tirer ? Je tiens vraiment pas à finir comme ces deux-là. L'hiver approche, nous en avons encore pour des jours et des jours avant d'atteindre le sud. On n'a pas de nourriture, pas de couverture, pas de vêtements chauds, pas d'armes. Kolb nous a proposé de vendre quelques-unes de ses peaux. Avec l'argent, nous pourrons acheter tout ce dont nous avons besoin. J'ai plus trop confiance en lui. Tu vois une autre solution ?
Naya secoua la tête. De Lune se tourna vers Yosp.
« Et toi, Yosp ? Les heures ne te disent rien ?»«
Ne me parle pas !»
bredouilla le petit homme. Le froid matinal n'était sans doute pas la seule cause de ces tremblements. « En ce cas, retournons à l'auberge et essayons de parler à Kolb, » conclut De Lune.
« Où sont-ils passés ?» demanda Kolb.
Barlin s'interrompit dans sa tâche et leva sur le trappeur un regard dépourvu d'aménité.
« Ils ont foutu le camp cette nuit, » marmonna-t-elle. « Comme tu réponds d'eux, tu me paieras leur nuitée. »
Kolb avait entendu des bruits au cours de la nuit, les avait attribués à des règlements de compte dans les rues proches et n'y avait pas prêté attention.
« Je comprends pas, » murmura-t-il. « Quel intérêt pour eux de s'aventurer en pleine nuit dans une ville aussi dangereuse que Chon ?»
On ne sait pas toujours ce qui se passe dans la tête des gens.
Les cerbères de la vieille femme, trois hommes aux épaules larges, assis autour d'une table, dévoraient leur petit déjeuner dans un concert de bruits de mastication et de déglutition. Kolb sentait que quelque chose clochait dans les propos et l'attitude de la vieille femme.
« Tu serais pas pour quelque chose dans leur départ, par hasard ?»
Il avait parlé d'une voix forte. Les trois cerbères se retournèrent en lui adressant des regards torves.
« Je suis pas leur mère !» répliqua Barlin.
« Je sais qu'il se passe de drôles de trucs à Chon !»
insista le trappeur. Il regretta d'avoir laissé son fusil dans sa chambre. Il n'avait sur lui que son poignard, une arme insuffisante face aux trois gaillards de la logeuse.
« Il s'en passe de drôles partout sur ce monde !»
marmotta Barlin en continuant d'éplucher ses pommes de terre. Kolb se demanda où et comment elle pouvait se procurer une denrée aussi précieuse que des pommes de terre. Ses chambres ne lui rapportaient sans doute pas suffisamment d'argent pour s'offrir ce genre d'extra. Mais il se rappela qu'il avait besoin d'un logement, besoin d'elle, et préféra remballer soupçons et questions.
« Tu as sans doute raison, vieille chouette. Après tout, s'ils ont envie de se faire pendre ailleurs, ça les regarde. »
Barlin posa son couteau sur la table au milieu des épluchures. S'essuya les mains sur un torchon noir de crasse et se dirigea de son allure très sautante vers le coin cuisine.
« Installe-toi, Kolb, que je te serve ton petit déjeuner. Il y a de la viande séchée de rat noir au menu. »
Chon se réveillait d'une nouvelle nuit de cauchemar. Ses habitants retiraient les panneaux de bois ou de tôle avec lesquels ils occultaient leurs portes et leurs fenêtres. Les rats désertaient les rues pour se réfugier dans les égouts. De Lune, Naya et Yosp déambulaient dans un labyrinthe qui s'animait peu à peu. Les mines chiffonnées des hommes et des femmes qu'ils croisaient disaient une colère mêlée de résignation et de culpabilité.
« Moi je dis que le ciel se vengera de nous !»
proférait une femme à une autre.
« Qu'il nous enverra bientôt les cavaliers de l'Apocalypse !»«
Il s'est déjà vengé !»
répondait l'autre.
« Il nous a envoyé la peste !»«
Pourquoi les chefs de clan ne nous débarrassent-ils pas de cette vermine de gueule noire ?»
Ils y trouvent leur intérêt, je suppose.
Des nuages roulaient au-dessus de la ville, poussés par un vent rageur et froid, porteur de pluie.
« Les heures me disent, les hommes en blanc, ils sont très malheureux !»
déclara Yosp.
« Quoi encore, les hommes en blanc ?»
glapit Naya. Le manque de sommeil et l'horreur ressentie devant les croix lui avaient mis les nerfs à vif. À côté de Tchon, le noyau apparaissait dans sa mémoire comme un havre de paix et d'harmonie. « Il veut sans doute parler de cela, » fit Delune. La ruelle débouchait sur une immense fosse au fond de laquelle s'agitaient des formes blanches et silencieuses, des hommes et des femmes enveloppés de tissus blancs maculés de taches brunes. Ils vivaient dans des trous creusés dans la terre et bourrés de paille. On distinguait à peine leurs traits sous les bandes nouées autour de leurs visages. Des âmes charitables leur lançaient des restes de repas. Delune s'accroupit sur le bord de la fosse pour mieux les observer.
« Putain, Delune, on va pas rester planté là toute la journée !»
maugréa Naya. « Il ne s'agit pas de peste, » déclara le guérisseur au bout d'un moment, « mais d'une forme de lèpre. J'ai déjà vu ce genre de cas dans le haut lieu. La peste aurait tué les trois quarts de la population de Tchon.
C'est quoi la différence ?
La peste est contagieuse, la lèpre beaucoup moins. Attendez-moi là. » Delune descendit dans la fosse par un escalier grossier taillé dans la paroi de terre et étayé avec des pierres.
« Reviens !» cria Naya.
Parvenu au fond de la fosse, Delune se dirigea vers deux silhouettes plus proches. Elles reculèrent lorsqu'il s'approcha et se réfugièrent dans l'une des cavités forées en bas des parois.
« Je suis Delune, guérisseur du haut lieu. J'aimerais vous examiner. »
Les deux silhouettes ne lui répondirent pas. Les autres s'étaient elles aussi retirées dans leur cavité.
« Va-t'en !»
La voix déformée était celle d'une femme.
« J'aimerais vous examiner, » répéta Delune.
« Il existe peut-être un remède pour le mal qui vous ronge. »«
Personne ne peut plus rien pour nous, »
gémit la femme.
« Personne.
J'aimerais quand même essayer. »
Aucune réponse, aucun mouvement. Au bout d'un long moment, Delune se résigna à rebrousser chemin. Un bref coup d'œil lui montra que Naya et Yosp l'attendaient là-haut. Les passants lui lançaient des regards intrigués et réprobateurs. Il retourna vers l'escalier de terre.
« Attends !»
Il se retourna face à la femme sortie de la cavité. Elle dénouait les bandages autour de sa tête, dévoilant peu à peu un visage ravagé par la maladie.
« Delune, reviens !» cria Naya.
Il s'avança vers la femme. Il ne restait plus grand-chose d'humain dans ce chaos de chair boursouflée. Ses yeux, qui brillaient comme des pierres précieuses au fond d'un lit de boue, exprimaient la souffrance, mais aussi l'espoir.